Le samedi 9 mars 2019, j'ai eu l'opportunité d'assister à l'événement Puissance des corps utopiques, une invitation du CIEP, le Centre international d'art et du paysage des Vassivières, une rencontre avec Denetem Touambona, écrivain et philosophe, et ses invités Florence Boyer, chorégraphe, et Barbara Glossowski, anthropologue. Lors de ces moments puissants de rencontres, la chorégraphe réunionnaise Florence Boyer nous a proposé une conférence imagée autour de son triptyque « Chakra » qui interroge la construction des identités dans les mondes créoles. Elle évoquera en particulier « Kaniki 2018 », une création chorégraphique qui figure les drames des enfants réunionnais arrachés à leur famille pour repeupler la Creuse.
Merci d'abord à Denetem Touambona de m'avoir convié d'abord à le rejoindre en résidence. Ici, sur l'île de Vassivière, au Centre international d'art et du paysage, que j'ai eu vraiment plaisir à découvrir, et de rencontrer aussi par l'occasion Barbara Glossowski. Donc c'est un grand honneur d'être là avec eux. Merci aussi de me donner l'occasion de partager ce travail qui est Kaniki, que j'ai pris beaucoup de temps à faire exister parce que ça évoque une histoire quand même très lourde, très difficile qui concerne mon île, et que ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps de digestion, de prise de distance, de nettoyage, d'émotion, pour savoir aussi qu'est-ce que j'allais donner à voir, comment j'allais faire parler de cette histoire, comment je pouvais, moi, apporter ma pierre à faire connaître cette histoire des enfants réunionnais, déportés, emmenés, déplacés, transplantés, notamment dans la Creuse. Et c'est vraiment en rencontrant, en ayant pris le temps de rencontrer certaines personnes, dont Marie-Thérèse Gasque, qui est avec nous ce soir, qui fait déplacement depuis Paris. Donc merci beaucoup, Marie-Thérèse, d'être avec nous. Et avec d'autres personnes, Jean-Philippe Jean-Marie, qui lui est retourné, par exemple, à La Réunion. J'ai pris aussi le temps de lire les ouvrages, les livres qui sont sortis sur cette histoire, où ils relataient leurs expériences, les documentaires. Donc voilà, c'était quand même assez long pour prendre de la distance et savoir comment, moi, chorégraphe, j'allais faire parler les corps et parler de quoi. Je n'allais pas supposer pouvoir... Enfin, l'histoire parle d'elle-même, les images, leurs livres parlent déjà, ils sont déjà très très forts et très durs. Émotionnellement, je n'ai pas la prétention d'arriver à là au niveau de la danse. En revanche, moi, ce que j'ai eu envie de donner à voir, c'est rappeler en fait ces blessures là, d'abandon, d'injustice, de rejet aussi parfois. Enfin voilà, toutes ces blessures que les individus en général traversent, mais là, dans un contexte vraiment, vraiment injustifié, enfin atroce. Et en même temps dire, ok, ces gens-là sont aussi résilients. Ils sont là, certains se sont suicidés malheureusement, d'autres sont en hôpital psychiatrique. Est-ce que ce centre a pu nous permettre de faire là, dans cet espace complètement blanc et dont les contours sont effacés pour accentuer, je dirais, cette perte de repère, cette perte de repère, des racines aussi, mais en tout cas dans ce contexte-là. comment figurer cette dislocation des identités, cette déstructuration des individus. Alors, forte de mon travail de recherche en anthropologie sur la danse maloya, j'ai déstructuré cet ADN cinétique. Je parle d'ADN cinétique parce que c'est vraiment ce schème moteur. C'est quelques schèmes moteurs qui sont fondamentaux dans la danse maloya que j'ai disloqués, déstructurés, en écho à la déstructuration des identités de ces enfants de la Creuse, des enfants réunionnais de la Creuse. C'est long à dire parfois dans la phrase, mais voilà, c'est vraiment avec beaucoup de respect que je présente ce travail et que j'espère donner l'occasion aussi à chaque fois à certains d'entre eux, d'entre elles, de venir accompagner la diffusion de cette pièce. La particularité de mon travail, c'est que j'ai mené un travail anthropologique en parallèle de mon travail artistique. Et l'un et l'autre se nourrissaient à partir de l'analyse des schèmes moteurs de la danse maloya que j'ai noté sur une partition du mouvement, par la Laban notation. Et donc c'est grâce à cette notation que j'ai pu identifier quels étaient ces schèmes moteurs récurrents qui sont permanents dans la danse maloya, au-delà des différentes manières dont peuvent peuvent s'exprimer les réunionnais dans la danse maloya. Je vous éclaire d'un point de vue historique. Bon, peut-être que certains ne connaissent pas la Réunion, elle se trouve là, à côté de Madagascar. Souvent, on croit qu'on est dans les Antilles, dans l'autre océan. Voilà, pour situer un peu plus. Donc pendant ce travail de recherche, je risque de partir sur toute l'historiographie, ça risque d'être un peu long. Pour faire court, le Séga est le nom générique qui désignait la danse des Noirs à l'époque dans tout l'océan Indien. Donc vous allez voir Séga qui n'a pas du tout la même réalité choréologique ni musicale qu'on peut voir aujourd'hui à La Réunion. Du Séga, en fait, qui est ce terme générique qui désigne la danse des Noirs, où là on les voit dans des lithographies de Roussin de 1860, il y a eu une évolution terminologique au niveau... le Séga, là, on voit quadrille créole. Là, ça marque l'influence des danses européennes qui sont arrivées à La Réunion et qui ont beaucoup influencé la danse des Noirs, et qui s'est reconfigurée, je dirais, qui s'est créolisée.
Marie, Mad Basaline, Salomon... Ah, oh, même mon gros-mère, mon gros-maman. Puis longtemps ou pas, malgacine, mon nation. Ah, moi, babas habitant tampon. Ah, moi, babas habitant tampon. Marie, Mad, Basaline, Salomon, en respect, en l'honneur, mon mazination.
Donc le Séga, c'est ce qui désigne la danse des Noirs à l'époque, la danse des Noirs qui est aujourd'hui le Maloya. La définition qu'on donne, c'est la danse et ère de danse des Noirs dans l'océan Indien au XVIIIe siècle. On parlait à ce moment-là de Séga primitif ou Séga national, parce qu'évidemment, en fonction des vagues de migration forcée pendant la période esclavagiste, tout était Séga en fait. Dès qu'il y avait des Africains ou des Malgaches qui arrivaient, à partir du moment où ils se donnaient à une danse, c'était un Séga. Donc c'était Séga national, les Séga nationaux, Séga primitif, Séga national. Et ensuite arrive le Séga créole influencé par les danses européennes, quadrille contre danse quadrille. Puis arrive le terme Maloya qui vient désigner la danse des Noirs et qui va créer cette différenciation entre la danse des Noirs, l'héritage vraiment des esclaves, et cette danse si je suis tout ça, ça va être beaucoup très long. 1830-1930, c'est vraiment la première fois où le mot, c'est le Maloya, a été inscrit en fait dans les histoires Lacasse de Georges Fourcade. Et en 1975, le premier vinyle qui a été qui est sorti de Firmin Viry, où là il y avait vraiment Maloya annoncé publiquement. Comme genre musical et genre de danse. Pendant ce temps, le Séga, donc il y a eu vraiment cette scission, et le Séga continue d'exister et désigne. Alors, oui, donc s'il y a le Séga et le Maloya, c'est parce que le Maloya a été à un moment donné, il a été révélé notamment par le parti communiste qui en a fait en fait son hymne. Pour rallier la population, et comme ça allait à l'encontre de ce moment de blanchisation de la culture réunionnaise, puisque sortie de la période de la colonisation, il fallait effacer toute trace qui pouvait potentiellement faire penser à cette histoire liée à l'esclavage. Donc le Maloya n'a pas été interdit dans les textes, mais dans les faits, on confisquait les instruments, on ne permettait pas aux Réunionnais de jouer cette musique. Donc, c'est surtout le Séga qui s'est développé, et donc on parlait aussi de Séga Maloya, et puis d'un point de vue musical, on se rend compte que de toute façon, il y a une même racine, ce sont juste un instrumentarium qui a changé, le Maloya étant plutôt joué avec un tambour, un cayambe qui fait plutôt tch-tch-tch-tch-tch. Et avec des instruments qui sont de facture naturelle, avec des tiges de bambou, un tronc d'arbre qui fait le rouleur, par exemple, alors que le Séga, ce sont essentiellement des instruments européens, accordéon, guitare, basse, batterie. Donc voilà ce qui différencie vraiment le Séga du Maloya, avec une même racine commune initialement.
Souvent des fois miwa, un petit sucre d'ose, pour tata j'entends, un petit bonbon rose. Si d'abord un bé, ça n'en laisse, n'a cause à augmenter. N'a toi la mi plaire, mon bouquet fleur con, si baba ton.
Un petit film ou bon, nous détruire ensemble, mon bouquet fleur con, si baba ton.
Voir à la fin de l'extrait qu'on vous a montré, je casse les codes, de toute façon je casse les codes, et à la fois ce qui s'est passé là, c'est ce qui se passe aussi dans ce qu'on appelle le service cabaret, c'est là où le Maloya s'est vraiment perpétué dans les cadres familiaux, intimistes, alors même que le Maloya était interdit dans l'espace public, les personnes d'origine afro-malgache continuait bien évidemment à entretenir ce genre musical et danser dans ce qu'on appelle un service cabaret. Et ce service cabaret est en fait un rituel de commémoration dédié aux ancêtres, aux esprits, aux ancêtres, dans lequel le Maloya tient vraiment une place centrale. Et ce que j'ai observé pendant mon travail de recherche, c'est que les codes qui se révèlent dans le Maloya dansé de manière, je dirais, publique, de manière divertissante, ne sont pas opératoires dans le service cabaret. Les codes sont vraiment différents et sont initiés initiés par les maîtres de cérémonie. Voilà. Ce sont eux qui décident de mener la danse d'une certaine manière. S'il y a contact qui s'établit, ça va être l'officiant qui va l'introduire. Alors que dans la danse en elle-même, quand vous allez la voir danser par des couples, c'est vraiment sans contact. Et tout le jeu, toute la subtilité de la danse est d'être capable de s'approcher, de tourner et de montrer ses capacités physiques et rythmiques sans jamais se toucher. Alors que dans le service cabaret, c'est quelque chose de bien plus spirituel. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir son corps à la danse, d'offrir son corps à l'ancêtre. pour lui permettre de venir s'exprimer, pour venir se manifester à travers le corps de ceux qu'ils auront choisi. Et ces danses sont une vraie médecine pour ces gens qui pratiquent le service cabaret ou qui viennent participer au service cabaret, puisque c'est un moment où de lâcher prise, où vraiment le corps se laisse agir par la musique, par peut-être certainement les odeurs aussi, parce qu'il y a de l'encens qui est brûlé. Donc il y a vraiment toute une organisation qui est posée, avec bien évidemment 10 jours plus tôt, tout un carême, comme ils appellent ça, qui est fait. Enfin, tout ça, c'est vraiment organisé d'une manière... c'est ce qui organise souvent la vie de ces réunionnais-là. Et c'est ce qui manifeste aussi une autre façon d'être au monde, une autre façon d'apprécier le temps qui passe, ou de le mesurer en fonction de à quel moment je vais organiser ce service cabaret, dédié peut-être à la mémoire de la grand-mère ou au père. Et souvent, ça vient en rêve. Ce sont des demandes qui arrivent pour les officiants, soit lors de rêves qu'ils font, où on leur demande d'organiser ce rituel. Kaniki, on ne sait jamais vraiment comment va se terminer une pièce. On sait ce qu'on veut dire, on sait ce dont on veut parler ou donner à voir. Et puis après, moi, je travaille aussi comme ça, je me laisse aussi beaucoup agir, peut-être, ou guider. Et je ne savais pas que ça allait se terminer comme ça. Et plus ça va, et puis c'est la première fois que je fais sous cette forme-là, où il y a le solo de Robin qui est joué, puis le mien, mais c'est aussi le lieu qui s'y prête, c'est le lieu qui permet ça. Et à la fois, j'ai un peu perturbé Robin tout à l'heure, parce qu'à une heure avant de commencer, je dis non, on ne peut pas jouer que les deux soli, il faut qu'on termine par un extrait du final que j'appelle Kabar Maloya, d'un point de vue chorégraphique, juste pour avec les danseurs, pour qu'on s'en souvienne. Et je me suis dit, mais non, on ne peut pas terminer comme ça. Il faut montrer cette danse maloya que je déstructure, que beaucoup de réunionnais ne reconnaîtront pas. Mais c'était le but. Enfin, en tout cas, parfois, on peut la voir arriver, mais c'est évanescent. Ça vient, puis ça part, ça revient, vous l'entendez, puis dans le corps, vous le voyez, puis vous ne voyez plus. Il y a vraiment cette chose assez impalpable qui est juste là pour laisser parler les corps, en fait. Pour laisser parler les corps et peut-être guérir l'âme.
Voilà, mais un bourrique l'a sauvé, la patte contre Batavi, la bande qu'on baba. La vie fait vivre et croire, la vie trop odier. La vie plaît dans tous les noirs.
Recherche avec un musicien chanteur qui s'appelle Jean-Marie Barré, qui est un très grand maloyeur à La Réunion, et je l'avais sollicité pour sa poésie. Puis c'est une très belle personne qui dégage vraiment quelque chose de particulier qui me touche beaucoup, et j'avais envie qu'il m'assiste à la collecte de la mémoire orale des personnes qui ont à peu près le même âge que Marie-Thérèse, parfois un peu plus âgées, mais qui étaient témoins de cette période-là et qui sont restés à La Réunion. Parce que je voulais avoir le point de vue de ceux qui se sont partis, qui ont été emmenés, de ceux qui sont restés. Et aujourd'hui, j'espère rencontrer aussi ceux qui ont accueilli ces enfants dans la Creuse notamment. Et donc on a fait un travail de collecte de la mémoire orale et Jean-Marie Barré a mis en texte les témoignages de ces gens sur cette période-là. Notamment, certaines personnes disaient qu'ils avaient envie de partir et quand ils ont compris qu'ils n'avaient pas de billet retour, eh ben, ils sont vite rentrés chez eux en courant en disant finalement je faisais la queue pour partir et prendre mon billet. Et en fait, c'était une dame en l'occurrence, et donc elle est repartie chez elle en courant, en disant non, je ne veux pas partir, je veux partir mais pouvoir revenir. Enfin voilà, donc eux, ils ont pris conscience de ça, et pour certains, ils ont échappé à ce déplacement. Et dans les anecdotes qui étaient racontées, Jean-Marie Barré a écrit à un moment donné un texte où il parlait de kaniki, et ce mot m'a accroché, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est un terme réunionnais qui était très utilisé à l'époque et qui, alors, pour la plupart, ça veut dire petit. Petit guinguin, on dit à La Réunion. Mais ce n'est pas juste petit, c'est encore plus petit du petit. Petit guinguin, c'est vraiment rien, quoi. Un rien. Et à la fois, ça me faisait penser aux enfants, finalement. Quand ils disaient, bon petit kaniki, sortez à la... C'est bande de désordre, et peut-être trivialement en français, sale gosse, bande de sale gosse. Parce que c'est ce qu'on a fait croire aux gens en déplaçant ces enfants. On a fait croire que c'était des sales gosses, que c'était des délinquants, dont on a fabriqué la délinquance. On a, sur le fait, voilà, on a inventé qu'ils étaient délinquants parce qu'ils étaient dehors à ce moment-là. Et donc, pour certains, on faisait croire que leurs parents les avaient abandonnés, et les parents, pour certains, étaient illettrés, et on leur a dit, écoutez, vous voulez ou pas laisser vos enfants avoir un meilleur avenir. On va les former, ils vont devenir médecins, ils vont aller voir la Tour Eiffel, vous vous rendez compte, vous allez les empêcher de vivre ça. Donc forcément, les parents sont culpabilisés, donc ils disent, si, je veux un avenir meilleur pour mes enfants, oui, très bien, je signe où? Mais sauf qu'ils ne savent pas signer, donc ils mettent le pouce, et ils ne savent pas qu'ils ont mis le pouce pour signature sur un acte d'abandon. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants ont cru que leurs parents les avaient abandonnés. Et donc voilà. Et donc l'image que beaucoup ont gardée malheureusement encore aujourd'hui des enfants dits de la Creuse, c'est que c'était des sales gosses, c'était des caniquis, des moins que rien, parce que de toute façon, quitte à être à la PK, quitte à être dans un foyer, parce qu'ils ont, ils ont pas été des enfants sages, ils ont été des petits caniquis, quoi. Et ben, on les a emmenés aussi pour ça, donc quelque part, voilà, en même temps, qu'ils soient ici, qu'ils soient là-bas, c'était des caniquis. Aussi, on l'entend tout le temps, on l'entend souvent, c'est retrouver son âme d'enfant. Donc Kaniki, enfant, à travers cette pièce, redonner l'instant, un instant, ce qu'on leur a volé, leur insouciance, un instant de jeu, de la légèreté. Et donc là, on le voit un peu à travers le moment final de la pièce, mais dans la pièce en entier, il y a plein de moments où on est dans le jeu, où il y a les corps qui s'envolent, où il y a du jeu, il y a de l'insouciance, mais pour redonner un moment de joie, un moment de liberté, des moments d'insouciance qu'on a volé à ses enfants, à ses caniquis.
Papa j'aime beaucoup, tu cries à li belle, mi cries à li gros. Papa j'aime beaucoup, tu cries à li belle, mi cries à li gros.
Papa j'aime beaucoup, tu cries à li belle, mi cries à li gros.
Une réalisation de Nini Michegas pour Radio Vassilière.